Vous écoutez France Culture.
Diffusés tous les jours du lundi au vendredi de 10h01 à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Claude Courtois à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle Van Rett qui recevra tout à l'heure la philosophe Anne Dalsué pour y parler de philosophie et écologie à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins. Et c'est le début, ce lundi, d'une semaine sur l'histoire dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine dont le sujet, une fois n'est pas coutume, nous est venu d'en haut, de notre direction bien-aimée qui a prévu pour vous une journée spéciale jeudi 17 juin prochain, c'est-à-dire 70 ans moins un jour. Tout est là, après l'appel du général de Gaulle. Une semaine sur l'histoire donc, à la faveur d'une commémoration dont il nous appartient de faire peut-être un événement. Demain mardi, nous parlerons de la philosophie critique de l'histoire de Raymond Aron, en compagnie de Philippe Reynaud, vous verrez c'est passionnant. Mercredi, c'est de Paul Ricoeur et de la narration de l'histoire qu'il sera question, en compagnie de l'historien François Doss. Jeudi 17 juin donc, on s'interrogera sur la notion d'événement, en compagnie de Nicolas Offenstadt et Myriam Revaud-Dallone. Et vendredi enfin, le philosophe Jean-Marc Ferry reviendra sur les différences et les points communs entre les philosophies de l'histoire de Hegel et de Kant, ce qui, sous ces airs de querelle d'érudits, permet en réalité de poser la question fondamentale de savoir quelle peut être la place de la volonté dans l'histoire. Mais c'est, comme il se doit en cette matière, par la fin que nous allons commencer cette semaine. La fin, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Étrange concept dont la pertinence a quelque chose d'extrêmement décourageant. La fin de l'histoire, donc, au début de cette semaine, en compagnie du philosophe Jocelyn Benoît, à qui l'on doit, entre autres, l'édition de quelques études regroupées sous le titre « Après la fin de l'histoire » chez Vrin, sur le thème donc de la fin de l'histoire, sur la version qu'en donne le philosophe Francis Fukuyama dans un article resté fameux, en date de l'été 1989, et un article dont Georges Claise, qui nous accompagne toute la semaine, en direct et en studio, va nous lire la fin. Voici donc, en guise d'apéritif, la fin de la fin de l'histoire.
La fin de l'histoire sera une période fort triste. La lutte pour la reconnaissance, la disposition à risquer sa vie pour une cause purement abstraite, le combat idéologique mondial qui faisait appel à l'audace, au courage et à l'imagination, tout cela sera remplacé par le calcul économique, la quête indéfinie de solutions techniques, les préoccupations relatives à l'environnement et la satisfaction des exigences de consommateurs sophistiqués. Dans l'ère post-historique, il n'y aura plus que l'entretien perpétuel du musée de l'histoire de l'humanité. Je ressens, moi-même, et je vois autour de moi d'autres ressentir, une nostalgie puissante de l'époque où l'histoire existait. Cette nostalgie continuera, pour quelque temps encore, à alimenter la concurrence et le conflit dans le monde post-historique lui-même. Même si je reconnais qu'elle est inévitable, j'éprouve les sentiments les plus ambivalents à l'égard de la civilisation qui s'est créée en Europe après 1945 avec ses surgeons américains et asiatiques. Et peut-être la perspective même des siècles d'ennui qui nous attendent après la fin de l'histoire va-t-elle servir à remettre l'histoire en marche ?
Bonjour Jocelyn Benoît.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. La lutte pour la reconnaissance, la disposition à risquer sa vie, le combat idéologique mondial, tout cela sera remplacé par le calcul économique, la quête indéfinie de solutions techniques, les préoccupations relatives à l'environnement et la satisfaction des exigences de consommateurs sophistiqués. Fukuyama écrit ça en 1989, c'est quand même très bien vu, non ?
Oui, enfin, il y a un contexte bien sûr à cette affirmation, c'est l'effondrement du bloc soviétique et la disparition d'un univers bipolaire, avec le sentiment qu'un des camps a triomphé. 20 ans après, bon, je pense que jusqu'ici, évidemment, l'horizon de notre monde semble être resté celui-là, Mais il y a tout de même quelque chose de très choquant dans ce diagnostic, puisque on nous parle par exemple de la satisfaction de consommateurs sophistiqués. Je pense que la fraction de la population mondiale que ça concerne est extrêmement limitée. Donc il y a tout de même une forme de cécité dans cette analyse à ce qui est la réalité massive de notre monde d'aujourd'hui, à savoir peut-être l'ennui pour certains, mais le désespoir pour beaucoup et même pour la majorité.
Mais est-ce que le désespoir ne vient pas du fait que ceux qui sont désespérés n'ont pas encore les moyens de s'ennuyer? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans Chien Blanc, Romain Gary parle des sociétés de provocation, qui sont les sociétés qui poussent à la consommation, sans donner à ceux qu'elles invitent à consommer les moyens de consommer, justement. Est-ce que de ce point de vue, celui qui n'a pas encore les moyens de consommer n'espère finalement pas qu'une seule chose, c'est d'avoir enfin les moyens de s'ennuyer comme le bourgeois qui se respecte?
Je pense que c'est ce qu'on essaie de lui faire espérer, effectivement. Alors la question est de savoir si... ça peut représenter une forme d'espoir. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de désespoir? Est-ce que ce n'est pas une autre forme? Est-ce que ce n'est pas une forme de renonciation à des aspirations qui seraient des aspirations plus fondamentales, par exemple celle à l'autonomie, celle à la souveraineté, à la liberté, à la capacité de faire quelque chose de sa vie? Ce qui est aussi une dimension du concept d'histoire, puisque dans le concept d'histoire, il y a la narration, la représentation de ce qui se passe, mais il y a aussi l'expression d'un projet, l'expression d'une volonté, le désir de prendre en charge le cours des choses. Alors, est-ce que ce qu'on peut offrir comme perspective, c'est juste la gestion de ce qui est, y compris dans ces fractures, dans ces oppositions, ou bien y a-t-il encore moyen de représenter la possibilité d'un changement, la possibilité de l'aspiration à un ailleurs, à une autre chose? Je pense que c'est cette ambiguïté qu'on trouve dans le concept de fin de l'histoire. Suivant qu'on l'utilise selon une modalité dans laquelle la fin de l'histoire est arrivée, on y est et il n'y a plus rien à faire, ou bien suivant qu'on l'utilise comme la représentation d'une possibilité qui se tiendrait au-delà de ce qu'il y a, qui représenterait la possibilité de la sortie d'un ordre vécu comme injuste, voire insupportable.
Paradoxalement, on peut faire l'un et l'autre, d'ailleurs, hein, puisque les penseurs de la fin de l'histoire peuvent indifféremment situer la fin de l'histoire à 1807, 1945, 1989. Le thème de la fin de l'histoire est un thème en lui-même qui n'en a pas fini, justement, de s'appliquer, selon ceux qui le défendent, à différentes époques. Jocelyn Benoît, juste un point. Vous avez dit tout à l'heure c'était choquant, qu'il y avait quelque chose de choquant dans la parole de Fukuyama. Mais est-ce que... De ce point de vue, vous vous situez du point de vue de la morale. Est-ce que Fukuyama, lui, n'est pas tout simplement du point de vue, l'hégélien qu'il est, ne se situe pas tout simplement, pour le coup, du point de vue du fait? Au fond, quand Fukuyama dit, même si, naturellement, il appelle de ses voeux un régime économiquement libéral, dans lequel, effectivement, on aboutit à la satisfaction des exigences de consommateurs sophistiqués, même s'il appelle de ses voeux ce régime-là, la façon qu'il a de le présenter ici ne semble pas normative en elle-même, il semble plutôt le constater, il est dans l'ordre de la description plus que dans l'ordre de la normativité, de sorte que on peut peut-être lire Fukuyama en disant le triomphe qu'il décrit de la démocratie libérale est déjà dans cet article présenté en un sens comme une défaite.
Oui, je pense que la question que vous posez est vraiment au fond la question fondamentale de la philosophie de l'histoire. La question est de savoir si on peut expurger le concept d'histoire de sa normativité. Est-il possible d'avoir un rapport à l'histoire qui soit seulement de l'ordre du fait? Et la question n'est pas celle d'un jugement moral qui serait porté de l'extérieur sur l'histoire, le philosophe se mettant en position de spectateur et déplorant le cours des choses tel qu'il est, mais la question est plutôt de savoir si, lorsqu'on parle d'histoire, n'est pas toujours mise en jeu une forme d'exigence, une forme de perspective normative qui serait intrinsèque à la possibilité pour des agents, pour des sujets, de vivre leur expérience comme histoire. Est-ce que dans l'histoire, il n'y a pas aussi cette demande de sens, cette exigence? L'histoire, je ne suis pas sûr que ce soit un concept purement descriptif, ou en tout cas, c'est un concept qui, de ce point de vue-là, a une ambiguïté, il circule entre le descriptif et le normatif.
Mais quand on parle d'histoire, on pense immédiatement à un sens de l'histoire, que ce sens vienne d'ailleurs ou qu'il soit imposé par la volonté des hommes. Il n'y a pas de conception de l'histoire sans une conception en sens orienté de l'histoire.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'au fond, la véritable question est de savoir quel usage est fait de ce sens. Et est-ce que ce sens est le sens d'un fait? Est-ce que c'est le récit qu'on raconte parce que finalement, on a compris? Et comme on a compris, maintenant, on maîtrise le cours des choses et on n'a plus qu'à le raconter. Ou bien est-ce que ce sens, c'est un sens qu'on projette, un sens qui exprime un désir, une volonté, une exigence. Et de ce point de vue-là, il y a des usages différents du sens, mais il est certain qu'on ne peut jamais séparer le concept d'histoire d'une charge de sens. Une histoire, c'est une façon d'articuler le sens, c'est une façon de donner du sens à ce qui se passe, à ce qui arrive.
Peut-être faut-il ici, pour les besoins de cette discussion, Jocelyn Benoît, et puis même, puisqu'on est au début d'une semaine sur la philosophie de l'histoire, revenir faire la préhistoire de cette notion de fin de l'histoire, c'est-à-dire en revenir à la raison dans l'histoire, les cours du grand Hegel sur l'histoire, dont, pour le dire mais vraiment très grossièrement, hein, les points essentiels sont, numéro un, que la raison gouverne le monde, qu'il y a cette fameuse équation, hein, tout réel est rationnel, tout rationnel est réel, chez Hegel, ce qui fait que, du coup, à ses yeux, la raison se réalise dialectiquement en mobilisant son contraire, la déraison, les passions. Au lieu d'opposer des raisons et passions, il les fait jouer de façon contradictoire en expliquant que si nous nous entretuons, c'est qu'en un sens, nous accomplissons à notre insu le plan d'une rationalité qui nous excède et qui se sert de nous comme d'outil. À partir de là, il y a plusieurs interprétations possibles de Hegel. À quoi sert-il d'agir librement? Pourquoi se donner le mal d'agir? Puisque de toute façon, notre action est prise dans un déploiement qui nous dépasse. Faut-il envisager l'homme sous son aspect exclusivement naturel? Est-ce que l'histoire repose sur une nature humaine qui serait agie donc par un dessein qui lui échappe? Et enfin, aux yeux de Hegel, l'histoire est finie, l'histoire est terminée, l'histoire culmine. Elle doit être pensée comme finie, presque en un sens d'ailleurs déjà finie d'emblée. Jocelyn Benoît, dans quelle mesure cette lecture que Hegel propose de l'histoire, qui est une lecture, alors là pour le coup, qui réintègre tous les événements humains dans une perspective générale, dans la perspective d'un sens qui entend leur donner un sens, est également une lecture décourageante?
Je pense que bon, il y a beaucoup de malentendus qui circulent autour du diagnostic hegelien de la fin de l'histoire, et en un sens, l'article de Fukuyama en 1989 en est une des dernières manifestations. Il y a une longue histoire de la réception de ce thème depuis Hegel. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que chez Hegel, ça ne veut pas dire que c'est arrivé. D'abord, bon, bien entendu, si par histoire on entend le déploiement des événements, le cours du devenir de l'humanité, ce cours se poursuit. D'autre part, d'une certaine façon, parler de la fin de l'histoire, c'est parler du moment où l'histoire est parvenue à sa vérité, le moment où finalement l'homme est devenu pleinement conscient de son être historique. Et d'une certaine façon, c'est parler du moment où, en un autre sens, l'histoire peut commencer. C'est-à-dire du moment où nous pouvons agir dans la conscience du fait que nous sommes historiques. Alors évidemment, ce qui est caractéristique d'une perspective comme celle de Hegel, c'est que ça n'est pas la conscience finie. Ça n'est pas la conscience de l'individu qui peut être pleinement conscience de l'être historique de l'homme. Cette conscience de l'être historique de l'homme ne peut être que quelque chose de collectif qui se déploie dans le mouvement même de l'histoire de l'humanité.
C'est-à-dire la sommation des consciences individuelles qui ne réfléchissent pas tellement sur elles-mêmes, au fond, et qui se contentent d'agir ou d'être agies quand elles agissent.
Et d'une certaine façon, oui, cette cécité, cet aveuglement sur les conséquences de nos actions, sur la portée, la signification même de nos actions, est un élément fondamental du déploiement de l'histoire elle-même. Nous ne produirions pas l'histoire, nous ne serions pas des êtres historiques si, au niveau individuel, nous étions en pleine transparence par rapport à ce que nous faisons. Il est probable qu'à ce niveau-là, le seul résultat possible de la transparence serait en réalité la renonciation, serait précisément une forme de désespoir.
C'est-à-dire, en d'autres termes, si nous savions qu'en agissant comme nous agissons, nous sommes en vérité le bras armé d'une intention qui nous dépasse, nous n'agirions plus.
Probablement. Même si, évidemment, ce qui est peut-être naïf dans cette représentation d'une intention qui nous dépasse, c'est la tendance naturelle que nous aurions à la représenter comme une autre intention individuelle. Comme s'il s'agissait d'une sorte de compétition entre notre individualité et une individualité d'ordre supérieur. Cette représentation de l'histoire, une représentation qui est une représentation, au fond,
providentialiste.
Oui, et puis psychologisante par certains côtés, qui représente l'histoire à l'image de l'esprit individuel. S'il y a histoire, c'est précisément qu'il y a quelque chose, une dimension d'analyse pour laquelle l'analyse en termes de ce qui se passe dans la tête de l'individu ne suffit pas.
Mais pardon, Jocelyn Benoît, est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là dans la philosophie de Hegel qui se réclame explicitement de Leibniz, dont oui. La théodicée repose sur un Dieu qui est bon, un Dieu qui a cet aspect proprement humain, désespérément humain, d'être bon. Il y a une conception providentielle, presque anthropomorphique, du rapport à l'histoire. En tout cas, Hegel est l'héritier de cela. Quand Fukuyama parle de démocratie libérale, de l'avènement de la démocratie libérale en des termes iréniques, on peut considérer qu'en un sens, de son point de vue, c'est presque, alors sans parler ici de volonté divine, c'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux.
Disons que je crois qu'il faut distinguer deux choses. Providentielle, oui, certainement. C'est certain que la fée hegelienne de l'histoire est une forme de réécriture moderne de la tradition providentialiste. Et bien sûr, il y a cette filiation avec les projets de théodicée de type leibnizien. En revanche, anthropomorphique, je ne suis pas sûr, parce que le paradoxe, au fond, d'une véritable pensée de l'histoire, comme celle de Hegel essaie de l'être en un certain sens, c'est qu'il n'y a de pensée de l'histoire que là où est fait droit à la transcendance de l'histoire, et fait droit au fait que, d'une certaine façon, l'être de l'homme se joue au-delà de l'homme. Ce qui constitue l'humanité de l'homme, c'est précisément le fait que, dans le devenir de l'homme, quelque chose se joue qui dépasse vous avez parlé tout à l'heure de nature humaine, et bien d'une certaine façon, ce qui fait l'historicité, c'est que nous ne sommes pas pure nature, nous sommes projet. Notre être se joue au-delà de ce que nous sommes actuellement. Nous sommes dans un constant dépassement de nous-mêmes.
Voici. Je vais vous montrer le dernier homme. Qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce que créer ? Qu'est-ce que désirer ? Qu'est-ce qu'une étoile ? Ainsi parlera le dernier homme en clignant de l'œil. La terre alors sera devenue exiguë. On y verra sautiller le dernier homme qui rapetisse toute chose. Son engeance est aussi indestructible que celle du puceron. Le dernier homme est celui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, diront les derniers hommes en clignant de l'œil. Ils auront abandonné les contrées où la vie est dure, car on a besoin de chaleur. On aimera encore son prochain, et l'on se frottera contre lui, car il faut de la chaleur. La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés. On n'a qu'à prendre garde où l'on marche, insensé qui trébuche encore sur les pierres ou sur les hommes. Un peu de poison, de temps à autre, cela donne des rêves agréables, et beaucoup de poison pour finir, afin d'avoir une mort agréable. On travaillera encore, car le travail distrait. Mais on aura soin que cette distraction ne devienne jamais fatigante. On ne deviendra plus ni riche ni pauvre, c'est trop pénible. Qui donc voudra encore gouverner ? Qui donc voudra obéir ? L'un et l'autre sont trop pénibles. Pas de berger, un seul troupeau. Tous voudront la même chose, tous seront égaux. Quiconque sera d'un sentiment différent entrera volontairement à l'asile des fous. Après la fin de l'histoire, Temps, monde et historicité, c'est l'ouvrage collectif dirigé à quatre mains par Jocelyn Benoît et Fabio Merlini, disponible chez Vrin. La fin de l'histoire, c'est le thème d'aujourd'hui, puisqu'on est au début d'une semaine sur l'histoire. Jocelyn Benoît, est-ce que vous diriez du portrait que Nietzsche propose dans Zarathoustra du dernier homme, cette espèce d'homme exténué là, qui nous ressemble de très près, là encore. Est-ce que vous diriez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du consommateur satisfait et exigeant de Fukuyama, qu'au fond, c'est choquant ?
Ça veut l'être, c'est une provocation, de toute évidence. Et là, pour le coup, chez Nietzsche, on trouve au fond l'envers de la dialectique hegelienne, c'est-à-dire que ce qui, chez Hegel, est représenté comme progrès, est représenté par Nietzsche comme déchéance, comme exténuement, comme effectivement la fin d'un processus. Même si, chez Nietzsche aussi, cette fin est censée indiquer la promesse d'autre chose, mais en refusant le jeu de la téléologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée
qu'il y a un moyen pour atteindre
autre chose. Il y a plutôt l'idée que quelque chose arrive à une situation d'exténuement où, d'une certaine façon, il n'y a pas d'autre solution que la rupture.
Alors, l'exténuement, à vos souhaits, dont vous parlez, Jocelyn Benoît, l'exténuement n'est-il pas... Alors, est-il l'effet d'une liberté acquise qu'il faudrait libérer de nouveau, qu'il faudrait reconquérir alors qu'elle est déjà là. Si tel est le cas, comment libérer la liberté? Comment surmonter cette liberté qui a été vaincue par sa propre victoire, par exemple sur le bloc soviétique? Finalement, l'enjeu est là. Sortir de la fin de l'histoire, sortir du discours du sens, c'est également du sens et donc de l'aboutissement de l'histoire, c'est également relibérer la liberté. Est-ce que, de ce point de vue, le fait même qu'il y ait des misères corriger et qu'il y ait encore des problèmes diplomatiques, parfois même polaires, entre des entités, n'est pas d'une certaine manière, une bonne nouvelle?
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est la réalité. Et la réalité, de ce point de vue-là, est plus forte que toutes les reconstructions providentialistes qui essaient d'enrégimenter les choses dans un ordre déjà fait, dans un sens déjà fait. Et je crois que là, on revient à la question, au fond, de deux usages possibles du sens, qui est vraiment la question qui structure, à mon avis, le sens du mot « histoire ». D'un côté, il y a les téléologies. Les téléologies déploient un ordre.
Il faut dire précisément que c'est le discours du but, du télos.
Ben c'est le discours des fins et des moyens, l'articulation d'un ordre dans lequel le réseau gigantesque des fins converge vers une fin structurante. Et ce qui est caractéristique du discours téléologique, c'est que la fin, d'une certaine façon, elle y est déjà donnée, ou en tout cas, on la traite comme déjà donnée.
C'est ce qu'on appelle une cause finale.
Mais même si on dit qu'elle est devant nous. On la promet, mais d'une certaine façon, on sait déjà quelle elle est, ou en tout cas, quelqu'un sait. Et on s'appuie, vous parlez tout à l'heure de la référence traditionnelle des théories providentialistes, au fond, à une forme d'entendement divin. La vérité du processus est quelque part, elle est quelque part au sens où elle est déjà là, on en dispose. Et je pense qu'il y a une toute autre modalité d'usage du discours de l'histoire, et au fond, on pourrait dire que c'est le discours messianique. Le discours messianique, il est exactement inverse, puisque le discours messianique consiste à dire que le sens est devant nous, mais on ne l'a pas. Et c'est la promesse de la possibilité d'un autre sens. Et je pense que, de ce point de vue-là, ce qui a toujours été moteur dans les discours révolutionnaires, et la révolution est une des dimensions du problème de l'histoire à l'époque moderne, c'est cette dimension de messianité. L'idée que les choses ne sont pas jouées, le sens demeure à faire, et il y a l'ouverture, la possibilité d'un autre sens, d'un nouveau sens. Peut-être, je pense qu'une référence peut éclairer ça. Il y a un auteur qui m'est très cher au début du XXe siècle, c'est Georges Sorel, qui était le penseur du syndicalisme révolutionnaire. Et alors, Sorel a une terminologie qui peut être discutable, mais je pense que sur le fond, il pose le problème de façon très radicale. Sorel oppose ce qu'il appelle utopie et ce qu'il appelle mythe. Alors, son usage du terme utopie est tout à fait discutable, mais disons que son idée, c'est que l'utopie, c'est toujours une fabrication intellectuelle, d'un intellectuel qui travaille à l'état isolé et qui, au fond, essaie de se représenter ce qui va se passer. Et il a l'idée que, par là même, l'utopie travaille dans le déjà fait. Au sens où même, c'est paradoxal, parce qu'une utopie, par définition, représente quelque chose qui est censé être alternatif à l'ordre actuel des choses. Il y a une dimension critique de l'utopie, mais Sorel dit, ce qu'on peut inventer, finalement, comme représentation alternative des choses, c'est toujours un autre modèle qui est un autre modèle du fait, comme si les choses étaient autrement et comme si on avait un autre ordre de fait. Et à ça, il oppose le discours de ce qu'il appelle le mythe, dans sa terminologie, ce qui, là aussi, est un usage non standard de la notion de mythe, mais qui est extrêmement intéressant, puisque Sorel dit, le mythe, c'est quoi? Le mythe, au fond, c'est l'ouverture de l'avenir. D'abord parce que c'est essentiellement collectif, et dans sa terminologie, c'est l'espoir collectif d'un groupe qui projette le caractère intolérable de l'ordre tel qu'il est, et son désir, au fond, de détruire cet ordre, et son désir de changer radicalement les choses. Et c'est extrêmement précis, puisqu'il dit, l'utopie, c'est une représentation, donc c'est quelque chose de théorique, pour des choses autrement, alors que le mythe, dit-il, c'est toujours l'expression d'une volonté. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il retrouve quelque chose de la dimension de messianité. Le désir du changement radical, le refus du caractère insupportable de l'ordre tel qu'il est, le désir de rupture, le désir du bon, sortir du jeu tel qu'il est. L'ordre des possibles tels qu'ils sont disponibles ne suffit pas. Donc, comme le disait le fameux slogan de 68, dans ce cas-là, il faut vouloir l'impossible. Ce qui est la réalité historique, c'est ce désir de l'impossible. Je pense que la notion d'histoire circule entre ces deux dimensions. Celle du fait, qui veut dire toujours déjà fait. Le mot fait, il faut le prendre comme un participe un participe passé, c'est le déjà fait, y compris lorsque on prédit, y compris lorsqu'on projette le fait futur. Et de l'autre côté, l'aspiration, le désir d'aller au-delà des faits, de refuser le jeu des faits.
En somme, ce que vous dites, c'est que vouloir l'impossible est une façon de ne pas se contenter du diagnostic ou de l'idolâtrie du factuel qu'implique le diagnostic de la fin de l'histoire, considérant que, en un sens, tout est déjà fait, avant même de se faire, ce qu'on appelle une causalité finale. Hein. Tout est déjà fait avant même de se faire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de décourageant, qui milite au fond dans la fin de l'histoire pour une sorte de bienveillante non-action de l'individu qui contemple les choses en train de se faire à son insu, malgré lui ou avec lui, mais en se servant de lui. Et donc, il s'agirait de réhabiliter quelque chose qui serait de l'ordre d'une volonté d'impossible, donc pour ne pas se plier à l'injonction tacite, et donc à la morale implicite de la fin de l'histoire. Mais Jocelyn Benoît, dans cette messianité, par exemple, quelle place feriez-vous au discours des néoconservateurs américains ? Je ne parle pas ici de ceux qui se servaient d'un discours messianique comme alibi pour manifestement mettre la main sur des ressources pétrolières. Laissons ça de côté. En l'occurrence, on ne fait pas de stratégie ici, ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas de la géodiplomatie. Néanmoins, que vaut, à vos yeux, le discours messianique, par exemple, d'un Kagan, ou on dit Kagan ou Kagan, qui est à la fois nietzschéen, au sens où il envisage les choses en termes de rapport de force, en expliquant que le discours de l'Amérique, c'est le discours du fort, et que le discours européen légaliste, c'est le discours du faible, mais qui, en même temps, se présente lui-même comme un idéaliste, en considérant que la démocratie telle que l'Amérique prétend l'exporter est le meilleur des régimes, et qu'il faut une volonté active pour concourir à ce qui doit être la façon de vivre de l'humanité tout entière. Est-ce qu'on est là, dans une version de la messianité qui ne se résout pas à la fin de l'histoire, ou est-ce qu'on est là, au contraire, dans une expression cachée du nihilisme de la fin de l'histoire ?
Je pense qu'il y a une ambiguïté dans cette messianité, qu'il y a une forme d'idéalisme dans ce mouvement intellectuel qui a été le néoconservatisme américain.
Qui est un mouvement beaucoup plus intéressant qu'on ne le dit, d'ailleurs.
C'est certain, c'est un mouvement intellectuel, d'abord, hein, avant de s'être traduit, malheureusement, dans la réalité politique, de la façon qu'on sait. Mais je pense que ce qui est typique de ce mouvement, c'est de faire de quelque chose qui est, d'un donné, un idéal, et qui a là une forme de mauvaise foi. Dire la démocratie américaine doit servir de modèle, c'est faire de quelque chose qui est une norme. Alors évidemment, il y a des subtilités de ce genre de position, puisque généralement, ce genre de position s'assortit d'une certaine forme de critique marginale de la démocratie américaine telle qu'elle est, en disant, parce qu'en même temps, on a sorti ce discours d'une clause qui consiste à dire, évidemment, ce qu'on vous propose en idéal, c'est la façon dont la démocratie américaine devrait fonctionner, non pas celle dont elle fonctionne réellement. Il faudrait qu'elle soit elle-même conforme à ses idéaux. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on retrouve, alors là pour le coup, une structure utopique au sens péjoratif du terme, tel que Sorel le critiquait, c'est-à-dire l'instauration d'un modèle abstrait qui est le modèle d'un certain ordre, par rapport auquel, y compris l'effectivité de cet ordre est censée être dans un certain décalage, mais qui serait quelque chose dont on disposerait, quelque chose de déjà donné. Il y a un modèle à appliquer, il y a un modèle universalisé. La messianité, c'est pas ça, parce que la messianité, c'est l'impératif d'Exode. C'est « il faut partir, on ne sait pas ». On ne sait pas où on va, on ne connaît pas la terre promise, on ne sait pas comment elle se présente. L'idéal n'est pas tout fait.
Messianité n'est donc pas messianisme.
Alors je ne sais pas quelle différence il faut faire à ce niveau-là. Le messianisme, si par messianisme vous entendez une idéologie qui utilise la figure de la messianité comme norme, comme moyen de valider certaines choses, de présenter certaines choses en modèle, non certainement.
Mais prenons par exemple, sur cette question, parce que l'enjeu est de savoir, encore une fois, quelle valeur on attribue aux faits. Est-ce que les faits sont normatifs ou pas ? Est-ce que quand on décrit quelque chose, on propose quelque chose au fond ? Ou est-ce que... Parce que tout le monde se donne l'air de décrire le monde, hein, quel que soit le point de vue qu'on adopte. Le problème, c'est que tout le monde décrit le monde conformément au point de vue qui est le sien. Ce qui laisse penser que sous la description, sous les allures descriptives d'un propos, il y a toujours une intention normative, sans faire de procès d'intention à qui que ce soit. Mais quand même, prenons un exemple. Historiquement, il n'existe pas, Jocelyn Benoît, de démocratie, de système démocratique sans économie de marché. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'exemple d'une démocratie représentative telle que nous pouvons l'appeler de nos voeux le régime de laquelle nous vivons, qui n'ait pas été assortie de l'économie de marché. Est-ce que dire cela, c'est immédiatement faire de la démocratie alliée à l'économie de marché une norme, ou est-ce que c'est tout simplement constater un fait ? Est-ce qu'en somme, quand on le constate, on déclare qu'il n'en existera jamais, on refuse de donner sa chance à l'histoire, ou bien est-ce que on laisse les choses ouvertes ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, bon, un point général, je pense que très souvent, je ne parle pas des scientifiques, je ne parle pas de ceux qui font de les sciences sociales, des historiens, qui supposent généralement un regard rétrospectif, bien sûr, hein, sur l'histoire passée, et se garderaient bien de proposer quoi que ce soit pour l'avenir. Mais parlons des philosophes, ou disons des analystes, ceux qui se situent au plan purement conceptuel. Ce qui me frappe, c'est que leurs descriptions des faits sont souvent extraordinairement misérables. Prenons l'exemple de Fukuyama. Fukuyama, dans le livre qu'il a tiré de l'article, lorsqu'il a étendu son analyse...
Il faut rappeler que l'article a été écrit avant la chute du mur de Berlin, ce qui est quand même très fort.
Dans un contexte où, en même temps, on sentait les choses venir, où de fait...
D'accord, mais enfin, c'est bien vu, quand même.
On était au grand tournant, qui était celui, effectivement, de l'effondrement rapide, à ce moment-là, des systèmes communistes. Au moment où, dans le livre qu'il a tiré de l'article, lorsqu'il a systématisé son propos, Fukuyama dit bien, oui, on remarque des poches locales de résistance, il y a des poches, finalement, de réaction... Et il semble que certains espaces, finalement relativement marginaux, ne participent pas de cet accomplissement historique. Et ce qu'il diagnostique, en réalité, c'est le phénomène qui commençait à se faire jouer à ce moment-là, la montée des intégrismes, et finalement l'apparition d'un certain nombre de réactions à cette tendance. Il me semble tout de même que 20 ans après, pour le coup, ce diagnostic appellerait une sérieuse révision, parce qu'il est très difficile de traiter ces phénomènes comme de simples phénomènes locaux, comme de simples aspects marginaux. C'est en un sens l'envers de ce qu'il avait diagnostiqué comme fin de l'histoire. D'une certaine façon, l'histoire est repartie, on ne sait pas comment, sur un mode extrêmement inquiétant.
Ce qu'il dit lui-même, la perspective des siècles d'ennui, peut-être va-t-elle servir à remettre l'histoire en marche ? Est-ce qu'on peut considérer que, d'un point de vue dialectique, justement, le fait qu'on s'ennuie, au fond, dans le système de la fin de l'histoire, ne justifie pas la résurrection de systèmes antagonistes clairement bipolaires ?
Oui, mais d'une part, je ne suis pas sûr qu'on arrive vers des systèmes bipolaires, je crois que la situation est plus complexe, mais d'autre part, comme je le disais au début, je pense que nous sommes fort peu à nous ennuyer. Si nous nous ennuyons, ce dont je ne suis pas sûr non plus, mais nous sommes fort peu à nous ennuyer, parce que la majorité de la population mondiale ne s'ennuie pas du tout, malheureusement. Elle a des problèmes beaucoup plus graves que cela. Donc il y a quelque chose de très complaisant, de très narcissique, très occidentalo-centré dans ce diagnostic, à un moment où la question est posée plus que jamais de la pluralité de notre monde et de l'inégalité vertigineuse de notre monde. Donc déjà, je pense que son analyse des faits est une analyse extrêmement sommaire, mais comme c'est presque toujours le cas des philosophes ou disons des intellectuels non-historiens lorsqu'ils abordent le processus historique...
Parce que lui vous dirait peut-être que la pluralité des mondes est en même temps tamisée ou filtrée par l'uniformité d'un désir commun. Au fond, ce que tout le monde désire, c'est d'avoir une société de consommation qui fonctionne avec des individus qui sont en mesure, qui ont les moyens, c'est-à-dire la liberté réelle, de consommer ce qu'on leur propose. Hein.
Je ne suis pas sûr que le modèle du consommateur soit si universel. Je pense que, par exemple, dans des régions du monde où les problèmes sont des problèmes de subsistance, c'est pas la même chose subsister et consommer. Ce qu'il décrit, c'est intéressant la formule, le consommateur sophistiqué. Ce qu'il décrit, au fond, c'est une civilisation, la civilisation du superflu. Là-dedans, évidemment, le modèle de l'analyse cogévienne du dernier homme.
Ça, c'est Kojève. Il faut rappeler que Kojève, grand lecteur de Hegel, justement, est l'introducteur, finalement, de l'idée de fin de l'histoire en France.
De cette lecture, oui, puis de cette lecture-là, je pense qu'il exerce une influence directe sur la lecture de Fukuyama. Ce modèle, c'est au fond le modèle de la civilisation du superflu, la civilisation de la futilité. Je pense que la question de la futilité est une question qui ne se pose... vraiment qu'à une fraction extrêmement limitée de la population. Et je pense que les questions de subsistance qui se posent à la majorité de la population mondiale aujourd'hui ne sont pas assimilables à ces problèmes du consommateur sophistiqué.
On va sortir des questions futiles en votre compagnie, Jocelyn Benoît, et entendre tout de suite à cet égard un passage des frères Karamazov. Le fameux passage dans lequel Ivan remet son billet à Dieu. Écoutez.
La faute, donc, elle revient aux hommes eux-mêmes. On leur avait donné le paradis et ils ont voulu la liberté. Et ils ont volé le feu du ciel en sachant eux-mêmes qu'ils deviendraient malheureux. Donc il n'y a pas à les plaindre. Oh, selon mon pauvre esprit terrestre et euclidien, moi je ne sais qu'une chose. C'est-à-dire que la souffrance existe. Il n'y a pas de coupable. Que tout s'enchaîne, tout simplement, directement, que tout cela s'écoule et s'équilibre. Mais ça, ce n'est que mon délire euclidien. Ça, je le sais. Mais je ne peux quand même pas accepter de vivre selon ce délire-là. Qu'est-ce que ça peut me faire, qu'il n'y ait pas de coupable et que je le sache? J'ai besoin de vengeance. Sinon, c'est moi que je vais exterminer. Et d'une vengeance pas dans l'inconnu, je ne sais où et Dieu sait quand, mais ici, là, sur la terre, et que je la vois moi-même. J'ai cru. Je veux voir par moi-même. Et si pour cette heure-là je suis mort, qu'on me ressuscite, parce que si ça arrive sans moi, ce sera trop rageant. Si j'ai souffert, ce n'est quand même pas pour que moi-même, avec mes crimes et mes souffrances, je serve de fumier à je ne sais quelle harmonie future. Je veux voir de mes propres yeux la biche se coucher à côté du lion et l'assassiner se relever pour embrasser celui qui vient de le tuer. Je veux être là quand tout le monde apprendra d'un coup pourquoi tout ça s'est passé. Toutes les religions de la terre se fondent sur ce désir, et moi je crois. Mais voilà pourtant les petits-enfants. Et là, avec eux, qu'est-ce que je fais? C'est une question que je suis incapable de résoudre. Je le répète, pour la centième fois, des questions, il y en a des milliers. Mais je n'ai pris que les petits-enfants parce que, là, ce qu'il faut que je dise devient d'une clarté imparable. Écoute, si tout le monde doit souffrir pour que cette souffrance achète une harmonie universelle, les enfants, eux, ils y sont pourquoi? Dis-moi, s'il te plaît. On ne comprend pas du tout pourquoi eux aussi ils doivent souffrir et pourquoi eux, ils doivent acheter l'harmonie par la souffrance. Pourquoi eux aussi, ils se sont retrouvés comme matière servant de fumier en eux-mêmes à je ne sais quelle harmonie future. La solidarité des hommes dans le péché, c'est une chose que je comprends. Je comprends aussi la solidarité dans la vengeance. Mais cette solidarité dans le péché, elle ne s'étend pas tout de même jusqu'aux petits-enfants. Et si la vérité est que, réellement, eux aussi, ils sont solidaires de leur père dans tous les crimes de leur père, alors évidemment, cette vérité-là n'est pas de ce monde, et moi, elle me reste incompréhensible. Il y a peut-être un plaisantin qui pourra dire que, de toute façon, l'enfant, il grandira et il aura le temps de pécher. Mais quand même, là, ils n'avaient pas grandi, et ils l'ont déchiqueté, à 8 ans, avec leur chien. Oh, Alyosha, je ne suis pas en train de blasphémer. Je comprends ce que ça devrait être, le bouleversement dans la nature, quand tout, au ciel et sous la terre, s'effondrera en une seule voix de louange, et tout ce qui vivra ou qui aura vécu s'exclamera « Tu es juste, Seigneur, car tes voies se sont ouvertes ». Quand la mère elle-même embrassera le bourreau qui a fait déchiqueter son fils par ses chiens, et que tous les trois s'exclameront, les larmes aux yeux « Tu es juste, Seigneur ». Là, bien sûr, ce sera le couronnement de la création et tout s'expliquera. Mais le hic, il est là, parce que c'est ça que je suis absolument incapable d'admettre. Et tant que je suis sur la terre, je m'empresse de prendre mes mesures.
Jocelyn Benoît, est-ce que... quand Dostoïevski explique qu'aucun plan suprême, qu'aucune harmonie divine, aucune foutaise de fin de l'histoire, de sens ultime, de réconciliation des malheureux, etc., etc., ne résiste, aucune perspective de cette nature ne résiste à la souffrance présente, ici-bas, maintenant, d'un enfant de 8 ans déchiqueté par des chiens, est-ce qu'il n'objecte pas, alors là, pour le coup, véritablement, à celui qui, comme Hegel, pense que les faits se perdent dans l'histoire comme les fleuves se perdent dans la mer? Est-ce qu'il ne fait pas la seule objection qui vaille à l'hypothèse de la fin de l'histoire et le seul appel qui vaille à la nécessité de la ressusciter, le cas échéant?
Oui, non, évidemment, c'est un texte absolument sublime et qui est traversé par ce sens de l'inacceptable et qui, évidemment, représente...
Vous dites sens ou il faut dire non-sens à ce moment-là?
Oui, c'est l'incapacité, l'impossibilité d'accepter certaines choses comme ayant un sens. Effectivement, le fait qu'il n'est pas possible de les faire participer à aucun ordre de sens, il n'est pas possible de les lire comme aboutissant à quoi que ce soit. Et donc, effectivement, c'est la rupture de toutes les téléologies. Rien ne peut justifier certaines choses. Alors, en même temps, c'est un texte, évidemment, d'une grande ambiguïté, puisque D'un côté, c'est aussi, au fond, une objection à tous nos projets, à tout projet. Celui, par exemple, qui viendrait avec un projet révolutionnaire et l'idée que les lendemains qui chantent autorisent, évidemment, certains excès, certaines violations, violation de l'innocence, violation de la vulnérabilité. Dostoïevski oppose cette conscience morale radicale, le caractère inacceptable de certaines choses. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas sacrifier.
Je fais juste une parenthèse, parce que le paradoxe de la position hegelienne ou du discours hegelien sur l'histoire, c'est qu'il peut servir au conservatisme le plus inactif, en disant bah, les choses se font malgré nous, donc quoi qu'il se passe, on n'a rien à faire, comme au tempérament révolutionnaire le plus inhumain, qui considère que la fin justifiant les moyens, la raison mobilisant son contraire, on peut tuer des enfants si c'est pour instaurer un ordre meilleur.
Qui fait de la révolution un plan. Qui fait de la révolution un plan, et donc qui hiérarchise les moyens aux fins de ce projet, qui est un projet de justification, bien sûr. Et là-dessus, Dostoïevski a une position radicale, avec en même temps, on l'a remarqué, l'ambiguïté de la fin du texte, le moment où il dit « Je m'empresse de prendre mes mesures sur cette terre ». Donc, il y a bien l'idée qu'on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de faire tout ce qui est possible pour empêcher ça. Alors, évidemment, le problème est de savoir si à partir du moment où on rentre dans la logique qui est la logique de l'action, on ne va pas retomber, inévitablement, dans un ordre téléologique. Il va bien falloir hiérarchiser les fins et les moyens. Alors, qu'est-ce que serait un plan? Qu'est-ce que serait un ordre de fins et de moyens qui, en même temps, refuserait de jamais rentrer dans la compromission qui est celle de la négativité acceptée au motif d'un bien supérieur?
En somme, ce que vous voulez faire ici, c'est penser l'histoire sans forcément l'assigner, comme on l'assigne à résidence, l'assigner à un sens précis.
Mais je pense que
garder la catégorie d'histoire, conserver la catégorie d'histoire, sans la réduire au déploiement d'une signification.
Je pense que ce qui est fondamental, c'est en tout cas se libérer de la fiction, du sens déjà fait, du sens déjà donné. Il y a une très belle formule de Merleau-Ponty là-dessus dans les années 50, hein, dans le contexte évidemment du débat intellectuel français.
Au moment où Merleau-Ponty revient sur lui-même d'ailleurs.
Dans la réception du marxisme. Et Merleau-Ponty essaie d'en retenir quelque chose, mais tout en faisant une critique de toute forme au fond de téléologie marxiste suivant laquelle on sait où on va, l'heure de la révolution a sonné et au fond le sens est déjà donné. Et Merleau-Ponty a cette formule magnifique dans le contexte évidemment des grands procès dans les pays communistes juste après la guerre, il dit « l'histoire n'avoue jamais ». Bon, évidemment, allusion flagrante aux procédures hein, d'aveu de ces procès. Mais je trouve que c'est très puissant, parce que dire que l'histoire n'avoue pas, c'est à la fois ne pas la soustraire au sens. Il y a bien quelque chose à dire, et d'ailleurs, il faut toujours dire, ça continue. Mais en même temps, il n'y a jamais d'aveu ultime. Ce qui ne va pas, c'est la fiction de la clôture, la fiction que, ça y est, le sens est fait, et il n'y a plus rien d'autre à faire, soit qu'à le raconter, soit qu'à vivre suivant cet ordre de sens qui ne bougerait plus. Non, on ne peut pas faire l'économie de l'agir, on ne peut pas faire l'économie de la tentative de répondre au défi de ce qui est. Et ça continue toujours.
Pardonnez-moi, Jocelyn Benoît, mais on peut tout à fait. C'est ça le problème dans l'histoire, c'est que descriptivement, on peut tout à fait, aujourd'hui en tout cas, là encore, alors peut-être dans un univers exténué, mais dans l'univers de ceux à qui nous nous adressons, par exemple ici, en faisant cette émission. On peut tout à fait passer sa vie sans agir. Il est tout à fait possible de, bah, tout simplement, sans baisser les bras, tout simplement de ne penser qu'à soi. Est-ce que la position ou le discours qui est le vôtre ne court pas le risque, finalement, de la déploration face à, bah, tout simplement, à l'égoïsme individuel de celui qui, sans trop savoir s'il est ou non le bras armé d'une téléologie plus vaste, ben, tout simplement, s'en fout un peu des autres, quoi.
Oui, je pense qu'il faut être conscient du fait que, bien sûr, qu'on peut ne pas agir en ce sens-là. C'est tout à fait évident. Il y a plusieurs attitudes possibles de l'agent individuel face à l'histoire. Il peut essayer d'y intervenir, comme il peut essayer de s'y soustraire. Mais je crois que le point intéressant, c'est que là même où on essaie de s'y soustraire, c'est encore une autre modalité d'action et de participation à l'histoire. Lorsqu'on parle de cet univers, finalement, de spectateurs, d'agents qui seraient devenus des spectateurs, pour lesquels l'histoire serait très loin, ou bien il n'y aurait plus vraiment d'histoire, on serait à la fin de l'histoire, ben, on est en train de parler de la situation historique de certains, et on est en train de parler d'une situation historique qui, en plus, a une caractéristique qui est qu'elle est extrêmement fragile. Extrêmement fragile, parce qu'on ne peut pas tenir à distance la violence du monde indéfiniment. Pendant ce temps-là, L'histoire continue, des forces s'exercent, il y a des conflits, et celui qui cherche à se tenir à l'abri des conflits, sauf à ce que par derrière des forces considérables soient mises en jeu pour protéger cet abri, tôt ou tard, il est rattrapé.
Est-ce qu'en somme, l'enjeu n'est pas de dire que l'égoïsme, loin d'être... Enfin, qu'il soit ou non moralement condamnable, finalement, n'est pas le problème. Surtout, l'égoïsme est un risque supérieur à la solidarité.
Je ne sais pas si c'est un risque, mais je pense qu'il y a une forme...
Le fait de mettre la tête dans le sable n'empêche pas le
fin d'arriver. Il y a une forme d'aveuglement à la réalité, bien sûr, dans cette attitude-là. Oui.
Et donc, de ce point de vue, comment convertir en termes politiques la lecture critique que vous faites de cet hegélianisme qui dirait tout est arrivé d'une certaine manière avant même que ça arrive. On ne possède bien que ce qu'on peut attendre. On est mort déjà puisqu'on doit mourir. L'histoire est finie puisqu'elle s'achemine vers son achèvement. Une fois qu'on a élaboré la critique de ce point de vue, en faisant valoir le fait de l'injustice, la nécessité des luttes, le fait aussi qu'on n'en est pas tous à être des consommateurs sophistiqués, etc. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Que faire, comme dirait l'autre ? Jocelyn Benoît.
C'est là-dessus, en tant que philosophe, j'ai peu à dire, puisque...
Ça tombe bien, il vous reste une minute pour
Je demeure dans l'édification conceptuelle, mais je pense simplement qu'il est très important d'avoir conscience du fait que l'ordre n'est pas clos. Revenons à Fukuyama, pour terminer. Mm-hmm. Lorsque Fukuyama a écrit que c'est la fin de l'histoire, c'est paradoxal, puisqu'on aurait pu avoir le sentiment que la fin de l'histoire, c'était 20 ans avant. Ce monde bipolaire était un monde figé. On a l'impression que ça ne pouvait pas bouger. Ça s'est effondré. L'état historique dans lequel nous sommes n'est pas plus pérenne. Il est bien évident que nous allons vers de grands bouleversements. Donc l'important est d'être capable, d'être ouvert à ce qui arrive et d'être capable d'évoluer, d'être capable de faire bouger l'ordre tel qu'il est.
On me donne l'obscurité. La lumière, qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin, qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin.
Voilà, merci Jocelyn Benoît d'être venu nous voir donc au début de cette semaine sur l'histoire pour parler de la fin de l'histoire, de l'article et du livre qu'il a suivi d'ailleurs de Francis Fukuyama. L'article date de 89. Je renvoie également à votre ouvrage, le premier d'une trilogie d'ailleurs, Après la fin de l'histoire, c'est chez Vrin. Qu'on me donne l'envie, la chanson par définition de l'enfant gâté, l'homme de la fin de l'histoire, le consommateur satisfait qui s'ennuie. En l'occurrence, c'est Johnny Hallyday qui le chante.
Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour, la solitude aussi pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours.
Voilà, donc en réécoutant cette chanson, on se dit qu'effectivement la dialectique hegélienne fonctionne à plein. Hein, la haine qui permet l'amour, le jour qui permet la nuit, la solitude qui permet d'aimer les gens. Voilà, c'est sur ces considérations donc que s'achève cette émission, l'émission sur la fin de l'histoire, et que commence le journal des Nouveaux Chemins, car il est 10h50. On retrouve tout de suite Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Philosophie et écologie avec vous aujourd'hui.
Oui, bonjour à tous. On passe de la philosophie de l'histoire à la philosophie de l'écologie ou de la nature en effet. Et on va voir que, en fait, les deux sont bien plus liés qu'on ne le pense. Alors, philosophie et écologie, c'est un livre qui s'adresse aux élèves de terminale, qu'on trouve dans la bibliothèque Gallimard, mais qui est suffisamment précis et pertinent pour intéresser un public bien plus large que les seuls lycéens. C'est ce qu'on va voir. Alors, l'auteur de ce livre, c'est la philosophe Anne Dalsuet qui est avec nous aujourd'hui pour nous en dire quelques mots. Bonjour Anne Dalsuet.
Bonjour.
Je disais qu'une réflexion sur l'écologie ne s'éloignait pas tant que ça d'une réflexion sur l'histoire, car en réalité, et c'est quelque chose que vous montrez bien dans votre livre, la relation de l'homme à la nature engage une réflexion qui est certes théorique, qui consiste à définir ce qu'est la nature, mais aussi une réflexion d'ordre pratique et même politique, Anne Dalsuet.
Oui, ce qui est apparu, enfin, c'est que depuis une quarantaine d'années, cette question de la réflexion sur la nature est réapparue, notamment avec les crises environnementales. Et évidemment, la nature n'est pas simplement un objet de contemplation, un objet qui se tiendrait à distance, mais c'est aussi réfléchir sur la nature nous conduit nécessairement à réfléchir aussi sur le politique, puisque c'est bel et bien en rapport avec la nature que notre action va s'y engager.
Alors ça, c'est difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on passe d'une réflexion sur la nature à une réflexion politique ? Où se passe la transition, en fait, entre les deux ?
C'est-à-dire que nous avons cessé de penser la nature comme quelque chose que nous devions dominer ou maîtriser, comme un objet scientifique ou un objet sur lequel la technique pouvait avoir une prise. Et désormais, il s'agit de réfléchir à comment nous pourrions faire de la nature aussi une question politique qui engage notre action et qui nous permette de penser une action commune. Il s'agit aussi évidemment de voir comment est-ce que les êtres vivants qui nous entourent sont aussi des sujets éventuels de droit, soit d'obligation morale, soit de droit juridique. Et donc les philosophies environnementales qui naissent aux États-Unis en 1970, essentiellement, vont réfléchir sur ça. Et donc aussi engager notre réflexion politique et notre réflexion éthique.
Alors notre réflexion politique, dans la mesure où elle prend pour but et pour objet de réflexion la nature elle-même, mais vous affirmez également que certains questionnements liés à la nature et au climat, par exemple, sont en lien avec, vous dites, des inégalités sociales croissantes. Alors là, où intervient la nature dans cette réflexion dans
Oui,
ce domaine-là ?
C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est que la manière dont nous allons nous confronter aux questions écologiques et aux problèmes écologiques ne sera pas vécue de la même façon dans les différentes régions du monde. Et donc nécessairement, il y a un déséquilibre qu'il faut prendre en considération, qu'il faut prendre la mesure. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait très bien que ce modèle de consommation, d'instrumentalisation de la nature qui est peut-être propre à l'Occident est un modèle qui voudrait être partagé par la majorité ou la population mondiale. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible, dont on prend la mesure. Et comment va-t-on justement régler cette question, sachant que tout un chacun peut vouloir revendiquer ce droit de maîtrise sur la nature, le fait de vouloir l'instrumentaliser, et en même temps, ça n'est absolument pas possible. Et ça, c'est un constat qui est fait notamment par Isabelle Stenger, c'est-à-dire qu'elle montre qu'il y a là vraiment une fracture sociale et politique de plus en plus creusée entre les différentes régions du monde, justement.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans votre livre, quand vous essayez de parler d'écologie politique et vous montrez l'importance peut-être d'une écologie politique. Et pourtant, vous montrez, avec Bruno Latour notamment, qui occupe une place importante dans votre livre, que lorsqu'on parle d'écologie politique, en réalité, on ne parle pas du tout de nature, que l'objet nature est absent d'une réflexion d'écologie politique.
Ce que fait très pertinemment Latour, c'est qu'il montre qu'il faut dépasser certains dualismes, et notamment le dualisme nature-société, nature-culture. Et qu'à ce titre, la nature n'est plus un objet ou une question parmi tant d'autres, localisée, si vous voulez. Elle devient... il s'agit de penser comment des êtres vivants vont pouvoir être aussi ceux qui devront arriver à prendre la parole dans une communauté politique. C'est ce qu'il met en place quand il réfléchit sur le plurivers.
Qu'est-ce que c'est que le
plurivers ? Alors le plurivers, c'est cette notion très étonnante, c'est-à-dire que la communauté politique ne concernerait pas simplement les humains, mais il s'agirait de donner la parole à des êtres vivants et donc de faire en sorte que leurs droits puissent s'exprimer aussi au sein du politique. Alors très concrètement, ça veut dire que ça suppose un autre rapport aux sciences également. C'est-à-dire qu'on ne va plus simplement demander aux scientifiques de nous dicter ce que nous devrions faire, mais plutôt nous les consulterions. Donc on voit très bien qu'avec la Tour, il y a une repensée de ce que peut être une assemblée politique également.
Et donc,
à ce titre, on voit bien que c'est une redéfinition donc des sujets politiques, des assemblées politiques, et dans cette mesure, l'écologie politique nous oblige à penser différemment la politique et le politique.
Voilà. Et il y a un autre thème qui est très important dans votre livre, il nous reste quelques secondes pour en parler, c'est le thème de la catastrophe. Vous revenez sur cette ère des catastrophes que nous serions censés traverser en ce moment pour essayer de vous interroger. Déjà, vous montrez, est-ce que la catastrophe, est-ce que c'est simplement une ère, une période? Nous sommes en ce moment dans la période des catastrophes naturelles, avec tous les dérèglements climatiques et autre chose. Et surtout, quand on parle de catastrophe, qu'est-ce qu'on veut dire véritablement? Qu'est-ce que ça dit sur notre rapport à la nature?
Oui, c'est un terme, enfin c'est un concept délicat, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il désigne, c'est très hétérogène, et puis il apparaît aussi que ça nous oblige à penser très différemment la temporalité, non plus dans sa continuité, dans sa progression, mais dans quelque chose qui serait justement de l'ordre de la séquence, de la fracture. Et donc réfléchir sur l'écologie nous invitait aussi à penser différemment le rapport au temps et le rapport à la nature.
Nous avons parlé de Bruno Latour et de catastrophe. On a aussi ici toute une histoire finalement du concept de nature,
oui,
depuis les
pré-socratiques
jusqu'à Aristote, Descartes et même Heidegger. Voilà, donc ça s'adresse aux élèves qui sont en terminale et qui passent le bac très bientôt, mais aussi je pense que ça s'adresse à un public beaucoup plus large. Ça s'appelle Philosophie et écologie, c'est donc par Anne Dalsuet. Merci beaucoup Anne Dalsuet. Et on trouve ça dans la bibliothèque Gallimard.
Et vous vouliez nous parler également d'un autre livre,
oui, alors,
sur Wittgenstein.
Cette fois on change complètement de sujet puisqu'il s'agit d'un livre effectivement sur Wittgenstein, écrit par la philosophe Sandra Logier, qu'on trouve en ce moment chez Vrin, dans la collection Problèmes et controverses. Alors, ce n'est pas le premier ouvrage que la philosophe consacre à Wittgenstein, mais celui-ci aborde de manière plus précise le problème de l'expression langagière et de la voix pour aller contre le mythe de l'inexpressivité. C'est le titre du livre. Si l'on réfléchit à la subjectivité telle qu'elle est exprimée dans le langage, donc dans l'articulation du dedans, notre intériorité, et du dehors, le monde, donc si on réfléchit à la subjectivité comme une voix humaine, alors le problème qui se pose, c'est celui de savoir comment exprimer à travers un langage qui ne nous appartient pas ou qui appartient à tous, ce qui relève de notre intériorité. Voilà, Sandra Logier montre ce qu'il y a en jeu derrière cette réflexion, une pensée du langage, mais aussi de l'ordinaire et de l'éthique, et pour finalement aboutir au constat que, au bout du scepticisme, ce que l'on découvre, c'est le réalisme. C'est donc Wittgenstein, le mythe de l'inexpressivité, c'est par Sandra Logier, et on trouve ça chez Vrin.
Voilà, et si vous voulez comprendre Wittgenstein, ce qui n'est pas peu dire, lisez Sandra Logier. Dans la même collection Problèmes et controverses se trouve le livre dont on a parlé également aujourd'hui, Après la fin de l'histoire, à quatre mains par Jocelyn Benoît et Fabio Merlini. Merci à tous, on se retrouve demain de 10h à 11h, comme tous les jours. C'est de Raymond Aron qu'on parlera, la philosophie critique de l'histoire de Raymond Aron. Comment ne pas faire de l'histoire une science sans pour autant renoncer à l'objectivité? C'est l'enjeu de la thèse qu'Aron soutint en 1938 et qui fut une véritable leçon adressée aux membres de son jury. On se retrouve aussi sur Internet, évidemment, où vous attendent les bibliographies, l'écoute en ligne et le téléchargement. Un grand merci à Georges Claes pour finir cette émission. Georges, notre stentor dont la voix nous accompagne toute la semaine. 10h59 et 6 secondes sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.